Je m'appelle Cécile et aujourd'hui mon horoscope m'a dit qu'il allait m'arriver de grandes choses. Il est 19h37 et j'attends toujours. Là, on est devant la grotte ou devant le 0915. C'est un espace qui a pris plein de noms différents. Ça a d'abord été notre stock d'atelier bois. Dans les premiers temps des grands voisins, on stockait notre bois ici. Et c'était l'ancienne médecine du travail, une espèce d'algéco tout amianté qu'on a recouvert de bois pour essayer de faire avec l'amiante et de ne pas toucher au mur. Et donc du coup, on l'a transformé successivement en vestiaire bagna quand on avait un sauna sur le site. Et puis après, ça a été un stock de régie, puis ça a finalement été ouvert. Et ça a été très longtemps une zone de squat. Une espèce comme un squat de pied d'immeuble un peu. C'était un peu une zone hors contrôle, où l'alcool était plus ou moins autorisé, l'alcool de l'extérieur. Toutes les choses illicites qu'on peut imaginer étaient aussi autorisées. C'est pas que c'était autorisé, mais on n'avait pas trop le choix. Et il y a eu pendant très longtemps un gros deal de crack. C'est une toute petite pièce qui paye pas de mine. Et donc on a fait face à cette occupation qui nous a posé beaucoup de questions. Il y avait le terrain de pétanque qui était juste en dessous. Donc c'était vraiment un endroit où les résidents se retrouvaient vachement. Ils buvaient des coups, ils jouaient à la pétanque toute la journée. Donc, d'un côté c'était chouette parce que c'était au milieu du site et ça a été vraiment une façon de les ramener sur le projet, à côté de la lingerie. Et nous, on était contents parce qu'on avait beaucoup de mal à les faire passer ce seuil de la lingerie. Et en même temps, ils restaient autour. C'était toujours... ils ne rentraient pas dedans, ils étaient dans ce petit local, ils étaient au pied, ils étaient devant sur la terrasse, mais ils n'étaient pas dans la lingerie. Le fait qu'elle soit en hauteur, c'est difficile d'y accéder, je pense. J'ai souvent comparé ce qui a été fait à Beaubourg pour le Centre Pompidou. C'est une grande place qui est en pente, qui vient se faufiler en dessous du bâtiment. Et donc du coup, on est comme attrapé, on glisse vers le bâtiment. Et là, ça supprime l'effet du seuil, alors qu'on est dans un musée d'art contemporain, que c'est quelque chose, généralement, tu rentres pas facilement dedans. Et là-bas, ça a tellement bien marché que pendant hyper longtemps, il y avait des SDF qui étaient justement dans le rez-de-chaussée. Ils ont dû finalement... cloisonné alors que c'était pas censé être comme ça. Et ici on a l'effet inverse, on a un seuil qui est déjà là, on a des marches et il faut le vouloir pour entrer dans la lingerie, il faut se dire j'y rentre, j'ai le droit d'y rentrer.
Et à cette époque-là, il y avait quoi dans la lingerie ?
Il y avait c'était vraiment un peu comme un foyer, c'était un café qui était ouvert toute la journée. Il y avait plein de tables, il y avait beaucoup de gens qui venaient réchauffer leurs plats, beaucoup de gens qui venaient prendre des cafés. Je pense que c'était complètement admis qu'on n'était pas obligé de consommer dedans. Donc on pouvait consommer sa propre nourriture. Donc c'était très sympa comme endroit. Il y avait de la musique le soir. Et il y avait un peu les mêmes dispositifs qui existent déjà, hein, de cafés suspendus à l'oratoire. Pendant les premiers temps de l'occupation, on a essayé de ramener les résidents des centres, de faire des permanences, de leur dire bah voilà, la lingerie est ouverte, c'est un nouvel endroit sur le site où vous pouvez venir, c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de consommer, vous pouvez juste vous asseoir dans les canapés, vous pouvez lire, vous pouvez jouer. Et en fait, ils ne venaient pas. Et on était un peu vexés, je pense qu'on s'attendait à. On pensait. Au vu de leur foyer, qu'ils auraient probablement plus envie d'être dans un lieu sympa, un peu aménagé, où il y a d'autres gens. Et en fait, bah non, c'était trop dur, quoi. Et il y avait plein de seuils qui se sont créés sur le site. Il y avait déjà le fait de sortir de sa chambre, c'était la première étape. Après, quand on est sorti de sa chambre du foyer, il faut rester dans l'espace commun. Et après, quand on est dans l'espace commun, il faut réussir à sortir devant son foyer. Donc il y avait beaucoup de résidents qui restaient juste devant leur foyer, vraiment sous le porche, à fumer des clopes, boire des cafés. Et après, c'est vraiment l'autre stade qui est de se balader sur le site et de réussir à rentrer en contact avec les zones ouvertes au public. Et c'était encore plus flagrant, en fait, avant, dans la saison 1, parce que tous les centres d'hébergement étaient assez concentrés dans une zone. Et on sentait qu'il y avait vraiment cette difficulté à sortir de cette zone qui n'était pas fermée au public, mais en fait qui, naturellement, s'était un peu constituée. Et moi, mon rôle, justement, pendant assez longtemps, c'était de faire du lien avec les centres d'hébergement. Donc, je tournais dans les centres pour annoncer ce qui allait se passer. Je faisais du porte-à-porte, ouais. En fait, j'ai essayé toutes les techniques inimaginables pour essayer de les raccrocher au projet. Au début, je me mettais en bas des centres avec une petite table et je disais « Ouais, il y a des chantiers ouverts, gna gna gna. » Puis très vite, je me suis sentie hyper conne, en fait, de proposer des ateliers. Je me suis dit « C'est vraiment... J'ai l'impression de les infantiliser. » De leur dire « Tu veux pas faire de la peinture avec moi ? Viens, on va faire un atelier, je sais pas quoi. » Je sais pas, ça me foutait mal parce que je voyais bien qu'ils étaient dans leur problématique à eux, tellement compliqué, tellement... Enfin, ils étaient ailleurs, quoi. Donc franchement, l'atelier peinture, ils en avaient rien à battre, quoi.
Pour quelle raison ils viendraient faire l'atelier peinture ?
Ouais, c'est ça. Au début, je me suis dit « Waouh, putain, il y a 600 personnes qui sont hébergées ici. » Et en fait, si j'arrive à en toucher 10, je serais déjà contente, quoi. Et ça m'a mis vachement de temps à me dire « Ok, il faut accepter que ça va se faire sur un temps très très long. »
C'était quoi ton objectif ?
Je pense que j'avais envie que la lingerie, ça soit un lieu ouvert à tous. Dans les faits, c'était ouvert à tous, mais que les résidents s'en saisissent. J'avais envie qu'ils se saisissent de ce projet, qu'ils se disent qu'ils comprennent juste ce qu'on faisait ici, qu'ils en faisaient partie, que les grands voisins, c'était pas nous, mais enfin que c'était... Parce qu'ils disaient toujours « vous, les grands voisins », et je leur disais « mais non, mais c'est vous aussi, les grands voisins, vous en faites partie. » Essayer de les inclure, en fait, dans cet endroit, quoi.
Faire comprendre qu'on était voisins.
On était voisins, ouais, c'est ça. Et en fait, ces permanences, c'était... je me suis dit « bon, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on... » On a commencé à écrire une lettre des voisins, donc chaque semaine, on écrivait une lettre avec un peu toute la programmation de la semaine, et puis on l'imprimait et on la distribuait dans tous les centres. On rentrait dans les centres, on les voyait les travailleurs sociaux, on leur disait, ben voilà, c'est la programmation de la semaine. Et puis après, on a construit une cafette mobile. Et là, on s'est dit, on va distribuer le café avec la lettre, comme ça va un peu attirer les gens.
Vous avez été des voisins insistants.
Ah, on a été hyper insistants, ouais. J'en ai rien lâché. Et le café, ça marche bien. Clairement, dès que tu as un truc à donner, qui est mieux qu'une lettre, c'est pas mal. Un truc qui se consomme. Et au début, les gens, ils arrivaient, ils prenaient leur café, ils repartaient. Je leur disais, non, si tu prends ton café, tu restes là, quoi. Tu peux pas repartir dans ton centre à boire. Puis au fur et à mesure, les gens restaient, ils échangeaient un peu, j'avais le temps de dire quelque chose. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour instaurer cette relation de confiance, quoi. Et puis très vite, il y a Sid Ahmed et Mondo qui se sont joints à moi. On était trois à pousser cette cafette et... je pense que c'était rassurant pour les résidents de voir qu'il y avait des résidents avec moi aussi. On n'était pas tout seuls, on mettait de la musique. Et je t'ai raconté toutes ces histoires de cafettes aussi parce que... en fait, ce qui était fou, c'est que les résidents, ils se mettaient dans des endroits... Enfin, c'était vraiment les endroits les plus nuls du site où ils aimaient bien se foutre, quoi. Ils allaient tout au fond du site, là où c'était vraiment dégueulasse, où ça ressemblait à un squat, quoi. Ils restaient là toute la journée où... là où ça a été le plus flagrant, je crois, c'est quand on avait ce sauna, là, ce bagna, qui était au milieu de l'entrée, en fait, sur un espèce de rond-point. Il était à peu près à 1 mètre du sol. Donc il y avait une structure qui était ajourée, donc on voyait en dessous des poteaux, mais c'était à 1 mètre, donc tu ne pouvais pas passer en dessous. Et pendant tout un été, ils ont passé leur été dessous. Donc ils vendaient des bijoux avec une structure qui était à 1 mètre du sol. Ils étaient comme dans... C'est pour ça que ça s'appelait la grotte, ça aussi. Elle a eu plusieurs... Et c'était vraiment le pire endroit du monde. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un pouvait se mettre dans cet endroit, en fait.
Comment t'expliques ça ?
Je sais pas si c'est parce que c'est des endroits qui sont pas appropriés par le public et du coup, ils s'y sentent bien. Ou disons légitime, peut-être que c'est une histoire de se sentir légitime à un endroit. Et que ce qui était trop aménagé, c'est... Peut-être qu'ils s'y sentaient pas comme chez eux ou comme ils pensaient que c'était pas pour eux. Peut-être qu'ils avaient envie qu'on leur foute la paix. En même temps, c'était en plein milieu du site, hein, donc on pouvait pas les louper. Quand ils se sont rapprochés de la lingerie et qu'ils étaient donc, du coup dans ces deux espaces-là, il y avait quand même un désir d'être au milieu du public parce que c'était des zones très publiques, mais d'être entre eux. Il n'y avait pas cette volonté de se mélanger.
Et alors du coup, inversement, est-ce que pour toi, de ton côté, en habitant ici, enfin en habitant... Ouais, en étant ici, quoi. Est-ce que tu as eu des seuils, toi ?
Bien sûr. Je pense qu'au début, j'avais le seuil du centre d'hébergement, où je n'osais pas trop y aller. Et puis, on m'a introduit, on m'a présenté, donc du coup, après, je n'osais y aller. Mais c'était toujours pas facile de rentrer dans le hall de Pierre Petit tu sens que t'es une intrus, quoi. Et puis là, mon seuil, je pense, c'est clairement la cour de la chapelle. C'est quand j'y rentre, j'ai presque la boule au ventre. Je sais que je suis pas bienvenue dans cet endroit, en fait. C'est hyper dur de... En même temps, je suis contente qu'elle existe, parce que je pense que c'est une zone de... un peu une zone grise qui sort du contrôle du site, et c'est important qu'il y en ait. Et en même temps, c'est dur parce que... Bah, c'est dur de... C'est pas le fait de pas avoir le contrôle sur cet endroit, parce que ça... Je trouve ça plutôt chouette, c'est de sentir que t'es pas bienvenue. Ça, c'est dur, je trouve, quand tu... de sentir regardé, épié...
D'endroit où tu... Où tu te sens bien, ici?
Bah, la lingerie, je suis chez moi, mais ça, c'est normal. C'est un peu un... C'est un petit cocon où, depuis le début du projet, depuis 2015, elle arrête pas de changer de forme, j'ai beaucoup de souvenirs dans cet endroit, donc oui, c'est... C'est mon cocon, et en même temps, quand il y a trop de monde le soir, je m'y sens plus chez moi et j'ai envie de partir.
C'est intéressant, finalement, ce truc, tu vois, de se dire, bah, à l'échelle d'un quartier, il y a des endroits où on se sent chez soi. Mm. Et puis, il y a des endroits où on peut ne pas forcément se sentir bien. Enfin, on a des seuils, en fait.
Ouais,
on a des endroits
je pense qu'il y a plein de seuils. Ouais.
Où on n'ose pas rentrer. Où on n'ose pas, où on y a vécu une mauvaise expérience. Mmh. Ça vibre pas pour soi, quoi. Parce que ça peut pas vibrer pour soi partout, quand même, non?
Non, bien sûr. Mais tu vois, là, ce qui a vachement questionné dans cet endroit, c'est que, du coup, on s'est dit, bon, comment on peut faire pour régler cette situation, pour se dire qu'il faut que ça redevienne un endroit mixte. C'était ça ce qui nous importait, c'est qu'il y ait de nouveau de la cohabitation.
Au niveau de la grotte, hein.
Au niveau de la grotte, oui. Que ça soit plus approprié par un seul public. Et en fait, on ne trouvait pas de solution parce que les solutions qui sont expérimentées en France en ce moment quand tu es face à ce problème, c'est des pics anti-SDF. C'est ça ce qu'on met dans les rues. Quand tu ne veux pas qu'un individu reste à un endroit, que ça te pose problème, tu te débrouilles pour mettre un dispositif pas accueillant.
Mais tu ne gères pas la cohabitation, là.
Non, là, tu gères le problème de les gens vont plus se poser. On aurait pu enlever tous les bancs, dire il n'y a plus d'endroit pour se poser ici. Et en fait, on a essayé le phénomène inverse. On s'est dit on va l'embellir de plus en plus. On va faire en sorte qu'il soit tellement beau, on va le rendre plus attrayant, plus accueillant, pour que les gens aient de nouveau envie d'y rentrer.
Alors c'est peut-être le système colon, ça.
Mais du coup, oui, c'est ça, ça questionne aussi, parce que finalement, on a eu besoin
de le surinvestir.
De le surinvestir, et en même temps, finalement, je suis assez contente, parce qu'il reste encore très investi par des communautés diverses, on va dire. Les soirs de jam, ça peut clairement devenir... pareil, une petite zone grise, un peu hors de contrôle. Elle n'est pas dans la vue des autres, en fait. Donc, je pense qu'il se passe plein de choses qu'on ne voit pas et c'est bien. Et elle reste quand même agréable. Elle est ouverte, en fait. On a fait en sorte de l'ouvrir et en même temps qu'on puisse la faire. Et c'est ce qui est un peu dur, je pense. C'est qu'une des solutions qu'on a trouvées, c'est qu'elle soit plus ouverte tout le temps. On a mis des horaires.
La grotte.
Ouais. C'est dur, en fait, parce que c'est notamment venu à un moment où... Il y a eu des pics avec l'accueil de jour où il y avait tellement d'affluence sur le site de migrants qui n'arrivaient pas à trouver une place dans Paris et à l'accueil de jour, qui cachaient leurs affaires partout sur le site. Et nous, on laissait faire, on se disait, bon, tant que c'est caché, ça va. Enfin, en fait, on fermait un peu les yeux dessus, quoi. Mais il y a un moment où on est devenu un stock géant, quoi. Tout le monde mettait ses affaires partout, ça devenait un peu insalubre, quoi. Et notamment dans la grotte.
C'est la ligne directrice de votre activation, faire en sorte que tous les espaces, quels qu'ils soient, soient fréquentés,
ouais,
habités par des publics différents.
Bah, je dirais que oui, c'est toujours là-dessus où on a insisté, et en même temps, on sait les limites. On sait qu'il y a besoin il y a des zones où tu as besoin d'être avec tes pairs, on va dire, avec ceux qui te ressemblent le plus. Et je pense que la cour de la chapelle, c'est un des meilleurs exemples. Nous, on a beaucoup insisté pour qu'elle reste publique. Il y a énormément de débats sur non, il faut qu'elle soit fermée, il faut qu'elle soit co-résident, il faut qu'elle soit... Et c'est vrai qu'avec la saison 2, cette question, elle se posait d'avoir une zone de répit où t'étais plus dans le tout public. Et en même temps, nous, on n'avait pas envie de réserver une zone soit pour un type de public, quoi. À part les zones privées d'habitation ou d'atelier. Donc finalement, c'est un entre-deux et je pense que c'est bien cet entre-deux. Il est, d'un côté, c'est admis que c'est plus des résidents. Parfois, il y a un peu de public qui vient, mais pas trop. Et ça se régule ou on leur dit, bah voilà, c'est une zone un peu plus calme.
De la même manière que on peut aussi voir la lingerie finalement comme un endroit aussi assez homogène au niveau du public.
Ouais.
Un public plutôt homogène du 14e arrondissement et plus loin.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et qu'il peut y avoir évidemment quelques résidents.
Oui, mais ça reste à la marge. Ouais.
Minoritaires vis-à-vis de la fréquentation du public. Et donc finalement, je trouve qu'il y a un balancier peut-être intéressant entre la lingerie et la cour de la chapelle.
Bah, je pense qu'en fait, on a un peu lâché du lest, tu vois. Genre, quand je te disais, là, ces deux premières années où ça a été mon objectif de faire en sorte que la lingerie, elle soit appropriée. Alors, c'était quand même différent dans la saison 1, parce que comme c'était un peu le restaurant, c'était un mix entre le restaurant oratoire et ce qu'elle est maintenant, il y avait quand même beaucoup plus de résidents qui venaient dans la journée prendre des cafés et tout. Là, clairement, elle est quasiment uniquement fréquentée par le public extérieur au site, même si en fonction de la programmation, ça peut varier. Elle peut aussi être remplie par des résidents, si c'est un concert des Cascades. Mais c'est vrai qu'à un moment... En fait, je me suis dit, on ne peut pas forcer les gens à être ensemble. Et il faut accepter, parfois, genre, de se dire, voilà, la lingerie, ils ne s'y sentent pas tellement bien chez eux, ils n'ont pas envie d'y être, ça ne sera rien de... Tu ne vas pas les prendre par la main, leur dire, viens te mettre ici, dans... parce que j'ai envie que tu sois là, quoi. C'est à eux de décider, donc s'ils n'ont pas envie d'être là et qu'ils préfèrent être cour de la chapelle, moi, ça ne me dérange pas. Je me demande d'où sort ce désir de cohabitation. Pourquoi, en fait, on a envie de cette mixité? Pourquoi il faut une mixité à tout prix, en fait? Est-ce qu'on a vraiment envie de traîner ensemble, au final, pour simplifier, tu vois, pour être un peu brut? Et là, je vais te le simplifier en mode... faudrait vraiment pas que tu me coupes au montage, parce que ça pourrait être bizarre, mais est-ce que les riches ont envie de traîner avec les pauvres et les pauvres avec les riches, tu vois? Est-ce que c'est pas un désir de riche, au final, de se dire, faisons des espaces mixtes, ça va être super beau, mais en fait... culturellement, on n'a peut-être pas envie d'être ensemble.
J'allais te poser la question, qui a ce désir de cohabitation?
Je pense que c'est presque ça vient de quelque chose de coupable, je pense. C'est quelque chose, on se sent coupable d'avoir peut-être approprié approprié la ville, en tant que... Alors tu sais, en plus, que je déteste parler d'hommes blancs, de catégories socio-culturelles.
De cet ordre.
Voilà. Enfin, j'aime pas catégoriser les choses comme ça. Mais dans le fond, je me dis que si on a ce désir à tout prix de cohabitation, en même temps, non. Je dirais que les choses sont un peu plus compliquées. Tu vois, quand je vois le 16e arrondissement, qui est un quartier ultra fermé, ultra homogène, je me dis que ça leur ferait du bien, tu vois, d'avoir une population un peu plus mixte pour s'ouvrir un peu les...
Aux bourgeois, ça leur
ouais.
ferait du bien.
Oui, ah oui, je pense que ça fait plus de bien aux bourgeois que...
mais comment ça peut faire du bien aux personnes qui sont... les plus pauvres, les plus précaires. Pourquoi ça leur ferait du bien d'être avec des riches?
Alors, je pense qu'au final, je sais pas si c'est faire du bien, c'est plutôt, moi, à mon avis, l'échange, il est plutôt les bourgeois, entre guillemets, vont un peu changer leurs préjugés.
J'ai peut-être un petit exemple tout à l'heure.
Ouais.
Hayat, elle a organisé le Nouvel An égyptien.
Ouais. Éthiopien.
Éthiopien. Donc un café.
Ouais.
Ça servi un café. La forme de ça, Hayat, elle parle tout bas. Mm. On l'entend à peine. Donc du coup, elle impose un silence. Elle a aménagé un petit espace qui nous invite à nous asseoir vers le sol. Mm. En fait, elle a fait un petit aménagement spatial. Mm. Elle a fait un petit aménagement d'espace. Et donc, elle nous a invités à rentrer dans son espace, dans sa temporalité,
ouais.
dans sa forme. Et j'ai trouvé ça vraiment un vrai moment d'échange. Où d'un seul coup, c'est pas « j'invite pas Hayat à rentrer dans mon univers », mais c'est Hayat qui me dit « je construis un espace et tu vas rentrer dans mon espace ».
Ah, mais pour moi, c'est ça ici. Mais
alors,
c'est...
dans quelle mesure? Par exemple, est-ce que tu as des exemples d'espace, par exemple, où à un moment donné, les résidents ont réussi à construire leur espace avec ce geste de l'invitation à venir rentrer dans leur forme?
Il y a des choses qu'on a fait ensemble, on va dire. Je dirais pas que c'est eux qui l'ont fait tout seul, mais l'ancienne maison des voisins, qui était la maison des médecins, ça a été un long chantier qu'on a fait ensemble pour que ça soit un espace ouvert, et ça a été vraiment un espace partagé où les résidents ont aménagé leur espace, mais c'était plus une collaboration, on va dire. Je ne sais pas si c'est dans l'aménagement d'espace, c'est plutôt dans la découverte d'autres pratiques, d'autres façons de faire. Je pense au marché des bifins. C'est un truc que je ne connaissais pas du tout avant, moi, les marchés de bifins. Et en fait, je me suis complètement plongée dans un monde de récupération dans les poubelles, de choses qui... Et j'ai découvert toute une population de personnes qui glanaient des trucs qui étaient jetés, quoi. Et ils m'ont fait complètement rentrer dedans, quoi.
On voit qu'avec ça, le marché des biffins, par exemple, on est beaucoup plus en train de parler de cohabitation de pratique.
Ouais.
On pourrait parler de cohabitation d'espace. On pourrait parler de cohabitation de forme de vie. Et moins parler de cohabitation d'individus en termes de statut, en termes de couleur.
Mm.
Tu vois ce que je veux dire ? Moins parler en termes de cohabitation, en termes de différence financière, mais commencer à parler, à se dire qu'est-ce que c'est de la cohabitation d'espace au sens de qu'est-ce que c'est que la cohabitation de forme de vie. Une vie, elle est toujours enveloppée d'un espace qui va avec. Et comment on fait cohabiter des espaces ?
Bien
par
sûr,
exemple, moi, quand on se balade dans les grands voisins tels qu'ils existent aujourd'hui, finalement, je me balade dans un espace qui, somme toute, reste européen, c'est-à-dire dans son architecture, dans sa construction.
Mmh.
Je ne suis pas dépaysé.
Je pense que ce qu'on cherche à construire, c'est vraiment des socles de vie. Donc, on n'a pas... tu vois, c'est, au final, quand tu regardes les cours, c'est surtout des chaises, une terrasse. C'est approprié par tous, tu vois. C'est une base, c'est une unité... tu vas trouver une chaise, une terrasse, a priori, dans tous les pays du monde. Mais je suis d'accord qu'elle a une forme peut-être européenne, mais dans les faits, ce qu'on propose, c'est surtout de quoi s'asseoir, de quoi changer. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les résidents qui sont dans les centres, ils n'aient pas l'impression d'être dans un ancien hôpital, qu'ils ne se disent pas « je suis dans un espèce de squat ». On voulait un peu enlever cet univers du squat. On n'avait pas envie de rappeler la rue. On avait juste envie de construire une base qui soit... tout le monde puisse l'investir. Et au final, ça favorise vraiment ni l'un ni l'autre. Et après, je pense qu'en fonction de ton aptitude à te mêler aux autres, et je pense que c'est vachement plus difficile quand tu as un parcours social qui est beaucoup plus chaotique. Et en fait, c'est y a plein de résidents qui restent dans leur chambre, mais je pense qu'il faut aussi l'accepter. On ne peut pas se remettre tous les... on ne peut pas aller chercher les gens par la main, tu vois. Et on l'a beaucoup fait, et je pense qu'à un moment, il faut aussi respecter le temps de l'autre à se dire, à un moment, je vais me plonger dans ce monde. C'est difficile, tu as beaucoup de gens qui viennent le soir. Il y a des temporalités qui sont très désagréables, je pense, pour eux, qui sont violentes. Et il y en a d'autres qui sont plus douces. Et il y a des temps différents, en fait. Et il y a des temps où ils se sentent certainement moins bienvenus et d'autres temps où ils le sont plus. Et dans les faits, c'est pas vrai. Ils sont pas moins ou plus bienvenus. Je pense que c'est la façon dont ils se sentent par rapport à l'espace. Et c'est les rythmes de vie du site. Et parfois, ils voudraient que le site il soit que pour eux. Mais nous, on est aussi là pour dire, bah non, mais ce site, il n'est pas à vous. Il est à tout le monde. Et parfois, il y a du public. Parfois, il y en a moins. Et c'est vrai que parfois, le public, il prend beaucoup de place. C'est ça ce qui est dur. Je pense que si je refaisais les grands voisins, si je pouvais choisir, si je pouvais me dire, il n'y a pas d'histoire d'argent. T'es autofinance, on te finance. Et tu n'as pas un besoin de survie, je ne mettrais pas autant de place à la fête. Je ferais en sorte qu'il n'y ait pas autant de distorsion entre la journée et le soir. Mais on n'a pas trop le choix, en fait. C'est ça ce qui est dur. Ça s'est un peu imposé à nous. Je pense qu'on n'avait pas l'idée du tout de faire un bar aussi énorme. On n'a jamais... ça n'a pas été nos aspirations. On y est sous camp, on aime bien faire la fête. Mais on n'est pas... on n'est pas barman, on n'avait pas envie d'avoir un bar. Ça nous a fait rire, mais ce n'était pas l'objectif du site. Ça a pris une proportion qu'on n'avait pas du tout envisagée, je pense. Et notamment parce qu'on n'avait pas les fonds nécessaires pour faire ça. Donc heureusement que ça a marché, parce que je pense que sinon les grands voisins n'existeraient pas dans leur forme non plus de cette façon-là. Mais si maintenant je pouvais réduire le côté festif et me dire on prend plus le temps de développer les liens internes, d'aller au fond de tout ce qui se fait avec le social, à 1000% je le ferais, quoi. C'est ça ce qui m'intéresse ici, c'est pas vendre de la bière.
On pourrait reprendre carrément d'un autre chemin,
ouais,
tout le projet des grands voisins. Une analyse de la maire du 14e arrondissement qui se dit, bon, j'ai un espace qui commence à être squatté, je peux y mettre de l'hébergement d'urgence,
ouais,
mais j'anticipe avant l'heure, ce qui va se passer quelques temps plus tard dans le 16e arrondissement, c'est-à-dire l'ouverture du centre d'hébergement d'urgence,
ouais,
avec les habitants qui crament le centre d'hébergement d'urgence. Mmh. Et donc une espèce de finesse de comprendre que ça va mal se passer avec le quartier, parce qu'ici c'est quand même assez bourgeois et ainsi de suite. Mmh. Et donc elle comprend qu'il faut autre chose, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et elle se dit, il faut que j'y mette là-dedans, d'autres acteurs, qui ne sont pas des acteurs qui sont dans la précarité, ce genre de choses, mais des acteurs qui vont créer dans cet espace une forme de vie qui est radicalement différente de la précarité des hébergements d'urgence et qui en même temps fera une espèce de lien. Par conséquent, on peut aussi se dire que finalement, l'histoire de la cohabitation dans cette histoire de l'intervention de l'esprit camp, comme aussi, bah, avant tout, se faire plaisir. Quoi. Se faire plaisir au sens d'y installer des formes de vie et des équipements qui sont propres
au loisir, ouais.
Au loisir, à l'esprit d'esprit camp, c'est-à-dire le camping, c'est-à-dire le bagna, le bar, ce qu'on en vit en fait, ce qu'on aime. Et par-delà, le souci social. Quoi.
Oui, je pense que... mais même... en fait, je pense qu'on est arrivé dans cette optique-là et que ça, le social nous a rattrapés. Parce que tu peux pas faire comme s'il n'existait pas. Tu peux pas installer un bar et pas te poser la question de qu'est-ce que ça va faire avec de l'hébergement d'urgence. Donc forcément, ça te rattrape. Et il y en a que ça a rattrapé plus que d'autres, on va dire. Moi, ça m'a vraiment beaucoup attrapé. Et je pense que j'ai complètement lâché l'architecture parce que... ce qui se passait ici, c'était beaucoup trop prenant pour rester focus sur mon loisir qui était de construire, d'imaginer des espaces ouverts à tous. Et en fait, il y avait... c'est hyper dur, en fait, de ne pas se laisser transformer par les grands voisins, de ne pas se laisser attraper, de réussir à rentrer chez toi serein. Tu vois, dans le loisir, en se disant qu'il y a un bar, un bagnac, c'est bonne ambiance et tout. En fait, c'est super dur, les grands voisins, comme endroit. C'est un endroit où tu es confronté tous les jours à la misère du monde. Tous les jours, tu vois des disparités qui sont tellement violentes. Et toi, tu dois rentrer chez toi chaque soir avec ça dans tes bagages. Donc ça crée vachement de violence entre nous tous, je pense, parce qu'en fait, on ne sait pas comment la gérer. Ce qui se crée en nous, c'est une espèce de tristesse, je pense, de ne pas réussir à bien faire les choses. Et tout le monde se renvoie la balle en disant c'est toi qui as fait un bar et qui exploite les gens, c'est toi qui fais mal les choses, là c'est l'État. Enfin, chacun renvoie à tout le monde, en fait, la faute. Mais je pense qu'on fait tous partie d'un grand tout, qu'il y a peut-être des interactions qu'on ne maîtrise pas, quoi, mais... je pense que dans le fond, on veut tous essayer de faire bien ici. Alors peut-être que parfois, on fait des erreurs, et même forcément très souvent, mais je pense que dans le fond, on essaye vraiment de faire tous au mieux, avec les meilleures intentions du monde. Et juste, on vient pas de ce monde-là, on le découvre tous, et on fait comme on peut. Elle a été très difficile, la cohabitation avec les travailleurs sociaux. Au début, il y a eu une incompréhension, je pense, entre nous. Peut-être surtout eux vis-à-vis de nous, où ils ne comprenaient vraiment pas ce qu'on foutait là. Et donc du coup, on a voulu beaucoup s'intéresser au sujet pour essayer de pallier à ça, quoi, parce qu'on voyait bien que ça ne marchait pas et que c'était quand même une des choses très importantes dans le projet. Donc il fallait que nous, on fasse un effort supplémentaire pour que ça fonctionne. Aux grands voisins, on se dit qu'il y a la cohabitation entre le public, les gens riches et les gens pauvres, entre guillemets. Mais en fait, déjà... au sein même des centres d'hébergement, c'est de la cohabitation. C'est des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui culturellement sont très différents, et eux-mêmes ils cohabitent. Et nous, au sein de nos associations, entre Aurore, Plateau Urbain et Yes We Camp, c'est de la cohabitation totale. On n'a pas du tout les mêmes valeurs de travail, les mêmes cultures de travail, les mêmes cultures associatives. Et on a appris à cohabiter, mais ça a mis deux ans avant qu'on comprenne comment travailler, avant d'avoir les mêmes outils, avant de... Et ça a mis deux ans, mais ça c'est au sein de l'équipe de pilotage, parce qu'entre Yes We Camp et Aurore, mais niveau centre d'hébergement, il y a déjà un gap encore un fossé qu'on a du mal à combler. C'est un temps. En fait, tout ça, c'est de la cohabitation, même entre nous, les structures occupantes. Et donc, il y a de la cohabitation à plein de niveaux. Et dans le fond, ça fonctionne très bien, je trouve. Je trouve qu'au final, par rapport au degré de difficulté de l'objet qui existe ici dans un si petit périmètre, ça fonctionne.
Là, par exemple, à l'oratoire, donc il y a des contrats d'insertion, il y a le dispositif premières heures. À la lingerie, tu mets aussi en place des formes de contrats d'insertion. Enfin, tu cherches à permettre à des gens qui sont éloignés du travail ou qui n'ont pas la possibilité de travailler, de pouvoir travailler.
Ouais.
Et donc, est-ce que tu n'as pas le sentiment des fois, par rapport à ce projet des grands voisins, d'être devenu une forme de puissance publique?
Je pense qu'on est une forme de mini-mairie sur ce site et j'aime pas trop l'avouer parce que j'ai rien contre les mairies. Hein. C'est juste me dire qu'en fait on s'est rapproché d'un modèle traditionnel sans s'en rendre compte. Bah, je trouve ça un peu triste, mais j'aurais peut-être aimé faire autrement. Mais... Après, oui, qu'on soit une forme de pouvoir public, dans les faits, c'est ce qui se passe effectivement sur le site.
La puissance publique, quoi.
Ouais.
Ça t'attriste pas un peu ?
Si, si, moi j'aurais aimé réussir à avoir une. Expérimenter des formes d'autogestion, des choses un peu plus innovantes. J'ai trouvé. Il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé durs sur ce site. À chaque fois qu'on. J'ai trouvé que la notion de commun, elle n'était pas forcément partagée par tous parfois. Et que justement, dès qu'on essayait de se dire qu'on allait partager des choses ou prendre des décisions ensemble, tout le monde revenait vachement sur ses intérêts individuels, sur. Je veux mon enseigne, mon truc, et que du coup c'était difficile en fait de faire du commun et de se dire on va faire de l'autogestion quoi. Que c'est, est-ce que, j'arrivais pas à savoir si vraiment à un moment les gens allaient se mettre ensemble et se dire on fait ça au nom des grands voisins et pas un peu un phénomène pas dans mon jardin, un peu chacun pour soi parfois. Ça revient vite en fait, ces trucs où à un moment tu sors du commun. Parce que, mais c'est normal aussi, parce que chacun a son activité, chacun est dans une forme de précarité en fait ici. Il n'y a pas que la précarité des résidents, les personnes qui ont des ateliers ils sont dans une forme de précarité. S'ils sont ici, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se payer un loyer autre part.
Les assos pareil.
Enfin, il y a des gens qui sont dans une forme de précarité et qui ne peuvent pas toujours penser à un projet global de société. Donc tu n'as pas que ça à faire entre guillemets quoi.
C'est quoi là ?
Le bingo drag.
On va aller voir ?
Ouais.